Vous écoutez, on lit pour vous.
Oublier, c'est normal, mais quand faut-il s'inquiéter? Un texte d'Alexander Easton, paru dans Bel Âge. Au quotidien, oublier certaines choses, c'est assez agaçant, voire, en fonction de l'âge, inquiétant. Mais l'oubli est un phénomène tout à fait naturel. La mémoire a besoin d'oublier. De plus, les souvenirs peuvent ne pas être aussi fiables qu'on le croit, mais au contraire être déformés par rapport à ce qui s'est réellement passé. Mais quel niveau d'oubli est normal? Est-il acceptable, par exemple, de mélanger les noms de pays, comme l'ex-président américain Joe Biden? Une question d'attention. Pour se souvenir de quelque chose, le cerveau doit l'apprendre, en codage, le conserver en lieu sûr, stockage, et être capable de le retrouver en cas de besoin, récupération. Si une de ces étapes est perturbée, le souvenir peut être perdu ou oublié. Le cerveau ne peut pas traiter toutes les informations sensorielles qui lui arrivent. Il filtre les informations afin de traiter ce qui est important. Ainsi, il encode sous forme de souvenirs principalement les choses auxquelles on prête vraiment attention. Qui n'a jamais oublié les prénoms des invités lors d'une soirée entre amis parce que son attention est tournée vers autre chose? Il s'agit là d'une défaillance de la mémoire, un oubli tout à fait normal et très courant. Les habitudes et les conventions peuvent aider à contourner ce problème. Par exemple, si l'on range toujours ses clés au même endroit, nul besoin d'encoder à chaque fois une nouvelle information pour les retrouver. La répétition est également importante pour ancrer les souvenirs qui ont tendance à disparaître s'ils ne sont pas remobilisés. Plus nous répétons, rabâchons ou racontons des souvenirs, plus nous nous en souvenons longtemps, si ce n'est que nous avons tendance à modifier ces souvenirs lorsque nous les racontons et qu'il est probable que nous nous souvenions mieux de la dernière version que de l'événement initial. Dans les années 1880, le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus a mené une expérience pendant laquelle les participants devaient mémoriser des séries de syllabes inconnues qui ne voulaient rien dire. Il a noté ce dont les participants se souvenaient au fil du temps et montré que la plupart de nos souvenirs s'estompent en l'espace d'un jour ou deux s'ils ne sont pas remobilisés. En revanche, si les séries étaient répétées à intervalles réguliers, les participants pouvaient retenir un bien plus grand nombre de syllabes pendant plus d'une journée. Ces répétitions volontaires qui permettent de mieux se souvenir d'une chose provoquent parfois l'oubli d'une autre. Nous pouvons ainsi encoder l'endroit où la voiture est garée en allant faire des courses, puis l'oublier, tant nous sommes occupés à répéter d'autres choses. La liste de courses à ne pas oublier, par exemple. Cet exemple permet d'illustrer une autre caractéristique de l'oubli, la capacité à oublier une information particulière, tout en se souvenant globalement de l'essentiel. S'il est parfois impossible de se rappeler précisément où est garée la voiture en sortant du magasin, on sait souvent si elle était à gauche ou à droite de la porte, sur le bord du parking ou vers le centre, ce qui permet de la chercher dans une zone relativement définie. L'impact du vieillissement. En vieillissant, les gens s'inquiètent davantage de leur mémoire. Il est vrai que l'oubli devient plus prononcé, mais cela ne signifie pas forcément qu'il y a un problème. Plus le temps passe, plus il y a de choses dont nous devons nous souvenir. Nos expériences passées partagent de nombreux points communs, et il peut être difficile de distinguer différents souvenirs. Par exemple, si vous n'êtes allé qu'une seule fois en vacances à la plage en Espagne, il est probable que vous vous en souveniez avec une grande clarté. En revanche, si vous avez passé de nombreuses vacances en Espagne, dans différentes villes et à différentes périodes, il vous sera plus difficile de vous rappeler si un événement s'est produit lors de vos premières vacances à Barcelone ou lors d'un voyage ultérieur. Le chevauchement des souvenirs ou interférences limite la récupération des informations. Imaginez que vous classiez des documents sur un ordinateur. Au début, le système de classement est clair. Chaque document trouve aisément une place où il sera facile à retrouver. Mais plus les documents arrivent, plus il devient difficile de décider dans quel dossier les ranger. De nombreux documents se retrouvent dans un seul dossier parce qu'ils sont tous liés à un élément. Ainsi, au fil du temps, il devient de plus en plus difficile de retrouver le bon document lorsqu'on le cherche, soit parce qu'on ne sait pas où on l'a mis, soit parce qu'on sait où il devrait être, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le même dossier. Enfin, ne pas oublier peut poser problème. C'est le cas de certains stress post-traumatiques où le souvenir est persistant, ne s'efface pas et interrompt régulièrement la vie quotidienne. Le deuil ou la dépression peuvent aussi rendre plus difficile l'oubli d'informations négatives, alors que dans ces cas, les oublier serait extrêmement utile. Oublier n'empêche pas forcément de prendre des décisions. Oublier est fréquent et le devient de plus en plus avec l'âge. De plus, oublier des noms ou des dates, comme l'a fait Joe Biden, ne nuit pas forcément à la prise de décision. Les personnes âgées peuvent avoir des connaissances approfondies et une bonne intuition qui peuvent aider à compenser de tels trous de mémoire. Mais, bien entendu, ces trous de mémoire peuvent être le signe d'un problème plus grave et suggérer qu'il faut consulter un médecin. Le fait de poser la même question à plusieurs reprises, par exemple, peut dévoiler que l'oubli est plus qu'un problème de distraction ponctuelle au moment d'encoder la réponse. De même, oublier son chemin dans des endroits très familiers peut révéler une difficulté à utiliser les indices de l'environnement pour se souvenir et se repérer. Et si oublier le nom d'une personne au cours d'un dîner est normal, oublier comment utiliser sa fourchette et son couteau ne l'est pas. En fin de compte, les trous de mémoire ne sont pas forcément à craindre. Il faut s'inquiéter s'ils deviennent extrêmes. C'était « Oublier, c'est normal, mais quand faut-il s'inquiéter ?» un texte d'Alexander Easton, paru dans Bel Âge.
Écolivre, déjà lu mais jamais vu, un texte d'Hélène Barry, paru le 24 mars 2025 dans La Presse. Avant d'être une librairie spécialisée dans les livres usagés, Écolivre était une œuvre de charité financée par Centraide. C'est maintenant une entreprise d'économie sociale avec un modèle d'affaires innovateur. Dans toute entreprise d'économie sociale, il y a le concept d'entreprise, c'est-à-dire la nécessité de financer ses activités. Nos activités sont entièrement financées par la vente de livres, dit la directrice générale d'Écolivre, Caroline Galland. Écolivre s'est installé au cœur du centre-ville de Lévis avec le modèle d'affaires classique d'un organisme à but non lucratif spécialisé dans la vente de livres usagés, soit recevoir des dons de livres et les vendre pour financer une bonne cause. Avec le temps, l'organisation a développé une clientèle et une expertise dans la gestion de produits culturels, livres, jeux, DVD, raconte Caroline Galland. le besoin d'améliorer l'expérience client s'est imposé. Les bouquinistes au Québec sont souvent des lieux encombrés et des livres empilés jusqu'au plafond. C'est correct, c'est un modèle qui fonctionne. Écolivre a choisi de travailler sur ce que sa directrice générale appelle la signalisation des lieux. Les livres sont classés par nom d'auteur en ordre alphabétique pour les œuvres de fiction et par thème pour tout ce qui concerne les loisirs, le sport ou la cuisine. Écolivre reçoit entre 3000 et 5000 articles par jour, surtout des livres. Sa directrice générale est bien placée pour constater que le livre est en forme au Québec. Contrairement à d'autres bouquinistes, Écolivre ne paie jamais pour les livres qui lui sont acheminés. Tous les dons sont acceptés, mais la boutique fait un tri pour garder un inventaire le plus large et le plus varié possible. On ne garde pas plus de 3 exemplaires d'un titre et on ne conserve pas longtemps ceux qui ne se vendent pas. On a beaucoup de choix et c'est ce qui fait en sorte que les gens reviennent. L'autre facteur d'attraction d'Écolivre, c'est son système informatisé de réservation des nouveaux arrivages. Se contenter d'une liste de clients qui demandent un titre en particulier n'est pas possible quand on sert 10 000 clients par mois comme Écolivre, selon Caroline Galland. C'est énormément de monde. Donc, en 2008, on a développé un système de réservation sur les arrivages. Il y a 2 types de clients. Ceux qui sont ouverts à la découverte et qui ont plaisir à fouiller, et ceux qui cherchent des choses très précises. Et pour ceux-là, le système de réservation est vraiment extraordinaire. La librairie d'occasion, qui recevait une centaine de livres par jour, dont une poignée de bénévoles s'occupaient, est devenue une petite entreprise dynamique, ouverte 7 jours sur 7, sur le point d'emménager dans des locaux plus grands qui lui permettront d'offrir plus de livres et d'accroître ses activités de réinsertion sociale. Elle emploie une 20aine de personnes et accueille comme stagiaires des personnes en difficulté, recommandées par le secteur scolaire ou le système de santé, qui ont besoin de se refaire une vie. En 2021, Écolivre a lancé son premier site transactionnel qui permet les commandes en ligne et la livraison partout au Québec. Ce n'est pas si simple, mais c'est une aventure qui sera notre futur, estime sa directrice générale. Chez Écolivre, les livres ont une deuxième chance et même une troisième. Les titres qui sont écartés des réceptions et les invendus sont accumulés pour être mis en vente une fois par année à la fête du travail. L'événement remporte toujours un grand succès, selon Caroline Galland. Il est venu 40 000 personnes en 2024. On a vendu pour 30 000 $ de livres à 1 $, 2 $ ou 3 $. L'entreprise est associée à des recycleurs qui prennent en charge ce qui reste, qui servira à imprimer de nouveaux livres qui se retrouveront peut-être chez Écolivre, pour boucler la boucle. Pourquoi Écolivre? Magasiné dans les librairies de livres usagés, c'est souvent passer en revue des étagères poussiéreuses et faire des recherches dans un fouillis plus ou moins organisé. Écolivre veut prouver que le modèle d'affaires des bouquinistes peut être repensé pour être à la fois convivial pour les clients, utile pour la société et bénéfique pour la planète. C'était Écolivre, déjà lu mais jamais vu, un texte d'Hélène Barry paru le 24 mars 2025 dans La Presse.
Retour du transport pour aînés des centres d'action bénévole. Hausse de la facture. Un texte de Jean-Philippe Thibault, paru le 2 avril 2025 dans Chaleur Nouvelle. Les centres d'action bénévole, CAB, de la Gaspésie ont repris depuis le 1er avril leur service d'accompagnement en transport pour les aînés de 65 ans et plus qui veulent se rendre à un rendez-vous pour des soins de santé. Le service avait été interrompu en mars en raison de contraintes financières. Pour les mois d'avril et mai, les bénéficiaires devront toutefois défrayer une plus grande part de la facture. Jusqu'ici, Ceux-ci s'affranchissaient de 50 % des frais de déplacement offerts aux bénévoles pour l'utilisation de leur véhicule. Les usagers devront maintenant payer 75 % de la note. Les bénévoles touchent 50 sous par kilomètre en compensation pour l'essence et l'usure de leur véhicule. Pour un trajet de 200 km, par exemple, il en coûtera donc 81 $ plutôt que 54 $. On est vraiment attristé de devoir faire ça, mais on tient à rappeler que c'est une mesure temporaire. On souhaite se rasseoir avec le CI3S de la Gaspésie pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'avoir du financement supplémentaire. Nous sommes toujours en négociation avec eux et il y a un bon canal de communication. On est très transparent d'un côté comme de l'autre, mais on ne peut plus soutenir le service sans entrer d'argent nouvel. Explique la présidente du regroupement des CAB de la Gaspésie et des Îles, Nancy Valois. Toutes les modalités du plus récent budget québécois n'ayant pas été dévoilées dans le détail, il faudra probablement attendre l'étude des crédits budgétaires avant d'en savoir davantage. Le regroupement estime à 485 000 $ les coûts annuels nécessaires pour maintenir le service. Le CI3S de la Gaspésie a mis sur la table une offre de 80 000 $ mais n'a pas été en mesure de reconduire une somme d'urgence supplémentaire de 200 000 $ qui avait été octroyée l'année dernière. Les 8 CAB de la Gaspésie ne peuvent confirmer ou infirmer si des rendez-vous de soins de santé ont été annulés en mars en raison de la suppression de leurs services. Tous nos bénéficiaires ont été appelés pour leur expliquer la situation et ça a été assez médiatisé, alors on n'a pas reçu des tonnes d'appels. Des alternatives avaient aussi été mises sur pied, précise Nancy Valois. Plus de 1100 transports par année sont effectués au Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, où elle est également directrice générale. Le volume varie d'une organisation à l'autre, mais est sensiblement le même. Rappelons que le service d'accompagnement en transport, plus qu'un taxi, permet, depuis 35 ans, d'escorter une personne de 65 ans et plus pour un rendez-vous lié à la santé. Notre population est vieillissante et les proches aidants en font déjà énormément. La majorité de nos aînés n'ont pas d'autres moyens. Ils sont souvent isolés, n'ont pas beaucoup de monde autour d'eux. Le filet social est très mince. D'avoir un bénévole qui va le chercher chez lui, l'accompagne jusqu'à la porte, le rassure, c'est plus que nécessaire, c'est vital. Il y a un volet très humain, expliquait le mois dernier Nancy Valois. Le dossier avait aussi été soulevé par le conseiller municipal de Gaspé, Réal Côté, ce qui avait mené à un échange épistolaire entre la mairie et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. C'était Retour du transport pour aînés des CAB, hausse de la facture. Un texte de Jean-Philippe Thibault, paru le 2 avril 2025 dans Chaleur Nouvelle.
Que peuvent faire les gouvernements devant un afflux à la frontière? Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 15 avril 2025 dans Le Devoir. La peur et l'insécurité créées par les politiques de Donald Trump convainquent de plus en plus de gens de tenter de demander l'asile à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. Devant ce nouvel afflux qui fait beaucoup parler, des experts appellent à considérer toutes les solutions possibles pour mieux gérer ces migrations. au-delà de la possibilité de réviser ou de déchirer l'entente sur les tiers pays sûrs, Québec et Ottawa pourraient accélérer le traitement des demandes, ouvrir d'autres voies d'accès, répartir les demandes et, surtout, dépolitiser le débat pour mieux réfléchir, avancent des spécialistes en migration. La première idée, sur laquelle insiste François Crépeau, professeur de droit à l'Université McGill, est celle de créer une protection temporaire pour ceux qui se présentent à la frontière. Si les arrivants ne passent pas par la demande d'asile, le risque d'accumulation des dossiers pourrait ainsi être évité. Cela permettrait même d'éviter une certaine politisation, selon lui. En 2015, la crise est devenue politique parce que l'Europe ne s'entendait pas sur la réponse à apporter, rappelle cet expert, qui fait référence à l'arrivée de plus d'un million de demandeurs d'asile en Allemagne. En 2022-2023, ce sont pourtant 7 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés dans l'Union européenne grâce à la mise en œuvre de la directive sur la protection temporaire qui existe depuis 2001. Un mécanisme semblable, l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, a d'ailleurs bénéficié à 298 128 Ukrainiens entre mars 2022 et 2024. Ce nombre est supérieur à toutes les demandes d'asile présentées au Canada durant la même période, soit 270 295 demandeurs, sans que ça fasse le moindre bruit, ou presque, dans le cas ukrainien, note M. Crépeau. Il faudrait toutefois faire attention à ne pas les placer en précarité permanente, note Adèle Garnier, professeure de géographie à l'Université Laval. Les Ukrainiens au Canada ont en effet actuellement peu d'options pour devenir résidents permanents. L'insécurité d'une demande d'asile et les délais seraient néanmoins réduites, dit-elle. Cette solution pourrait être considérée sous l'angle de la main-d'œuvre sans nier sa vocation humanitaire, surtout dans le contexte d'une baisse de travailleurs temporaires, ajoute Stéphane Reichold, directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, TCRI. La majorité des demandeurs actuels ont vécu et travaillé plusieurs années aux États-Unis. Leurs compétences sont donc plutôt transférables, estime-t-il. Devant une très forte affluence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait l'ancien président Joe Biden. Grâce à un programme humanitaire mis sur pied à la fin de 2022, un total de 30 000 ressortissants par mois du Venezuela, de Cuba, de Haïti et du Nicaragua pouvaient entrer sur le territoire américain sous la promesse qu'une personne, un employeur ou un lieu de culte allait veiller sur eux. Le but était d'inciter les individus à chercher des moyens légaux et ordonnés d'entrer aux États-Unis, écrivait alors le département de la sécurité intérieure. Répartition et services. Les arrivées massives créent une pression sur certains services, reconnaissent ces experts. Mais la capacité d'accueillir est politique, affirme notamment le professeur Crépeau. Elle est fonction des ressources qu'on veut bien allouer, abonde aussi M. Reichold. Québec a récemment annoncé qu'il mettait fin à un fonds d'urgence de 4,8 millions de dollars destinés aux demandeurs d'asile. Les organismes communautaires se retrouvent ainsi depuis le 1er avril à la case départ, et ça fait très mal, déplore le DG de la TCRI. Il n'y a pas de problème d'hébergement actuellement, et s'il y avait du financement pour les services aux demandeurs, on pourrait facilement les absorber. Il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas une mauvaise idée de proposer aux demandeurs s'ils souhaitent déménager dans une autre ville canadienne qui peut mieux répondre à leurs besoins, poursuit M. Crépeau. Mais cela doit être fait en tenant compte de leurs préférences ou à l'aide de certains incitatifs. Le premier ministre François Legault avait mis de l'avant cette idée de répartition, tout en précisant qu'Ottawa devait rendre le programme obligatoire. D'autres citent les exemples de mécanismes déjà essayés ailleurs. La clé de Königstein en Allemagne, calculent les quotas de demandeurs d'asile en fonction de recettes fiscales et de la population de chaque État. Le demandeur d'asile est alors directement envoyé à un endroit désigné et doit y demeurer, du moins pour les premiers mois, afin de recevoir certaines prestations. Une initiative à plus petite échelle existe déjà. L'organisme, le Centre de réfugiés, a mis sur pied depuis quelques mois un programme de relogement baptisé « Au-delà de la grande ville » qui inclut un placement confirmé dans un emploi avant la réinstallation. Accélération. À la fin de 2024, le nombre de demandes en attente d'être examinées par la Commission sur l'immigration et le statut de réfugié, CISR, avait atteint le sommet de 272 440. Les délais avant même de pouvoir défendre sa demande en audience sont de plus de 3 ans. Réduire les délais de traitement coûte cher, expose Mme Garnier, puisque cela signifie augmenter le nombre de commissaires. Mais il existe d'autres façons, moins individuelles, de conférer un statut, en utilisant la nationalité, par exemple. On pourrait décider de créer une procédure accélérée pour tous ceux provenant de pays où le taux de reconnaissance du statut de réfugié est supérieur à 90%, illustre-t-elle, reprenant une proposition de l'Association canadienne des avocats en immigration, ACAI. Même après avoir été accepté par la CISR, les demandeurs d'asile au Québec ne sont pas au bout de leur peine. Les quotas annuels de la province ralentissent ensuite le passage au statut permanent. Environ 20% des 180 000 demandeurs d'asile dénombrés par Statistique Canada dans la province pourraient ainsi déjà devenir permanents et sortir de la colonne des temporaires. Or, dans son plan d'immigration annuel, Québec n'accepte que 4 250 réfugiés reconnus sur place, des demandeurs d'asile déjà acceptés, par année. Les obstacles à la bonne gérance des migrations ne sont ainsi pas que bureaucratiques. On pourrait décider de les mettre dans une catégorie hors quota, propose Mme Garnier, mais ils sont pris comme un ballon de soccer en ce moment. En créant l'entente sur les tiers pays sûrs, puis en fermant le chemin Roxham, les politiciens croyaient bien faire pour rassurer la population, dit M. Crépeau, mais il faut maintenant arriver à sortir de ce type de politique. C'était « Que peuvent faire les gouvernements devant un afflux à la frontière? » un texte de Sarah R. Champagne paru le 15 avril 2025 dans Le Devoir.